C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes lundi quand même, une autre semaine qui s'amorce, 13 mars, bonne journée. Et bienvenue au 98.5 avec un ciel qui demeure nuageux, autour de 0 degré. Il y aura de la pluie ou encore de la neige un peu plus tard ce matin et peut-être même au début de l'après-midi, mais il n'y a pas d'accumulation. Et le maximum prévu aujourd'hui autour de 3 degrés. Ce soir et cette nuit, toujours de la pluie intermittente, mais elle est de faible neige. Et le minimum autour de plus 1 degré. Demain, on prévoit plus 3. Et encore là, possiblement un peu de neige, un peu de pluie, mais pas d'accumulation. Il n'y a pas de quantité de prévu. D'ailleurs, c'est un peu comme ça pour toute la semaine avec des températures au-dessus de 0, 3, 4, 5 degrés. Et on se retrouve avec du soleil également pour la fin de la semaine. Bon, premier dossier ce matin, ce sont ces banques qui ont fermé leurs portes aux États-Unis. Et Pierre-Yves va nous en parler tantôt parce que ce sont des systèmes différents. Mais aux États-Unis, donc, on a appris d'abord la faillite de la banque Silicon Valley, qui se spécialise dans le financement d'entreprises qui démarrent, des start-up dans le domaine de la technologie. Et puis hier, on a appris également la fermeture de la Signature Bank. Il y a une troisième banque également qui a fermé ses portes, mais qui était surtout connue pour ses activités en crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris au cours des dernières heures? Pour ce qui est de la Silicon Valley Bank, d'abord, on est en train de prendre des morceaux et de trouver preneurs. Ce qui fait que le surintendant des institutions financières au Canada a récupéré les actifs de la banque en question et va gérer l'affaire. Il n'y a pas de dépôt de citoyens, donc il n'y a pas de c'est une banque qui fait des prêts, une banque qui gère des investissements, mais des activités quand même assez limitées au Canada. Et là, je voyais ce matin que les Britanniques également ont récupéré les actifs. On est en train de morceler cette banque. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on garantit les dépôts qui ont été faits par les consommateurs, par les clients. Tout ça pour retenir, disons, la colère sur les marchés, retenir la colère des consommateurs qui se heurtent à des portes fermées depuis la semaine dernière. Et on pense que ça devrait être suffisant pour calmer le marché. Il y a des entreprises qui disent, écoutez, là, nous, on pourra pas payer nos employés si ça continue de cette façon-là. Et donc, il n'y a pas un ajout direct de capitaux, comme on a vu en 2008, quand on a eu ce fameux week-end où ça brassait sur les marchés, donc le président Obama pratiquement venait d'être élu. Et on avait remis en doute la fiabilité du système américain. Depuis ce temps, il y a eu des changements, quand même, mais c'est très différent du système canadien qui repose sur des grandes banques à charte, alors qu'aux États-Unis, à peu près n'importe qui peut ouvrir une banque quand il le désire. Alors voilà pour le dossier des banques dont on parlera un peu plus tard ce matin. Maintenant, si vous pensez prendre des vacances cet été et aller à l'extérieur, voyager en avion, ben soyons, vigilants. Deux, trois éléments que je peux ajouter ce matin. D'abord, le Journal de Montréal nous parle de transporteurs qui vont apporter des changements ou qui le font déjà. Ce qui fait que vous réservez, par exemple, pour un départ de Montréal, je sais pas moi, pour Paris, cet été, en juin, ben, il est pas impossible qu'on modifie l'heure de votre départ. Je sais que ça se fait déjà, là. Je connais des gens qui ont voyagé récemment, notamment durant la période de relâche, où l'heure de départ a été modifiée 3-4 fois, puis l'heure de retour, tu sais, on est passé d'un vol direct avec un vol de transit. Alors, je vous donne quelques exemples d'aéroports. Amsterdam, pour la période de 6 heures le matin à 13 heures, comme on a moins d'employés, ben, on a décidé de prendre 5 % de passagers de moins. L'aéroport de Londres à Heathrow, à peu près le même phénomène, donc il y aura des délais importants qui seront observés sur le marché. Et si je me permets d'ajouter, toute la gestion des bagages. Moi, il y a des gens qui me disent là que moi, encore aujourd'hui, après le chaos de l'été passé, on se retrouve avec des gens qui perdent leur valise à l'aller, au retour. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 jours avant que le bagage soit acheminé. Et donc, ça veut dire que si vous planifiez des vacances pour l'été, le conseil qui est donné, allez voir souvent ce qui arrive avec votre vol, parce que vous pourriez avoir des surprises, premièrement. Deuxièmement, on apprend que la compagnie Flair Airlines, qui est un transporteur à rabais, vient de se faire saisir 4 appareils. C'est dans le Globe and Mail ce matin. Ce sont des appareils en location. Ce sont des vols, pour la plupart, au Canada, des Boeing qui partent de Toronto, de Waterloo et d'Edmonton. Et là, on se retrouve avec donc des coupures de service parce qu'ils n'ont pas payé, ils doivent 1 million. Et le président de la compagnie dit, on essaie de s'organiser, on aurait aimé un peu plus de compassion, de compréhension de la part de la compagnie de location. Au 6h12, le dossier de l'ingérence chinoise, 2 éléments ce matin. D'abord, le Journal de Montréal nous dit que ce qu'on a appelé le présumé poste de police chinois, donc Rive-Sud de Montréal, Brossard également à Montréal, ont, je dirais, participé activement aux élections municipales et également provinciales. Alors, d'après des informations recueillies pour les élections municipales l'automne 2021, on leur disait expressément pour qui voter. Donc, c'est un message des communications avec la communauté chinoise. On a fait la même chose aux élections provinciales, des messages qui portaient sur les candidats de la CAQ, très susceptibles de gagner à l'élection. Mais on sait que la circonscription de Lapinière est une circonscription libérale depuis très longtemps. Le docteur Barrette l'a représenté. Alors, est-ce que c'est étonnant qu'une communauté comme ça se mobilise autour d'un ou d'une seule candidate? Pas vraiment. On voit ça dans d'autres communautés. Là, c'est pas le propre de la communauté chinoise. Il y a des votes en bloc comme ça qui s'expriment lors des élections. Puis il y a toute la question du financement. Mais donc ça, c'est un élément. L'autre qui est intéressant, c'est dans le Globe and Mail. Encore une fois, des infos du Service canadien de renseignement et de sécurité qui montrent qu'il y a une stratégie de la part de la Chine d'envoyer aux États-Unis, au Canada, des étudiants pour des travaux, disons, de maîtrise, des travaux de doctorat, notamment dans des secteurs où ils auront accès à des propriétés intellectuelles de grande valeur, notamment dans le domaine militaire. Et pas juste le domaine militaire, mais ça peut être le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a du data qu'on peut aller chercher également dans d'autres, champs de connaissances. Et ce que font, dans le fond, les Chinois, c'est de pouvoir, comme ça, essayer de passer sous le radar, d'être inscrit dans des universités canadiennes. On a vu le même scénario en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et là, les Américains ont commencé à serrer la vis. C'est tout un programme également de prêts et bourses pour permettre à ces étudiants chinois de venir au Canada. Mais tout ça, donc, pour les amener à se coller sur des travaux de recherche sur lesquels, ils vont piocher, mais en même temps, ils vont obtenir des informations probablement qui seront refilées au gouvernement chinois. Le dossier de la Société d'assurance automobile du Québec. Bon, c'est sûr qu'il y a encore des bugs, là. On entend parler de toutes sortes de choses, des morts qui ont été réinscrits, des personnes décédées là dans le registre lors du transit. On essaie de vérifier voir si c'était vrai ou pas. C'est pas clair. On parle d'une mainmise plus importante de la ministre Guilbeault sur les opérations. Et c'est un échec retentissant, on va se le dire là, et un échec surtout prévisible. Alors on verra quelle sera la mise à jour cette semaine. Et là, je parle même pas des files d'attente, là. Parce que ça, c'est la pointe. Les gens qui poirotent. Mais les bugs à l'interne pour les paiements, pour la mise à jour des dossiers, les contrôleurs routiers qui me disent que c'est encore un foutu bordel, que des informations contradictoires apparaissent. Et ça, c'est pas réglé. Et il y a deux points sur lesquels je pense qu'il faut insister, là. D'abord, quand le ministre Guilbeault dit « on prolonge de 90 jours », c'est qu'ils sont convaincus que ça va prendre ça 90 jours minimum avant de retrouver un certain équilibre. Et deuxièmement, s'ajoute aussi à venir pour la fin du mois de mars tout le volet commercial, le volet des chauffeurs de taxi également. Donc, comme vous le voyez, là, on est face à une situation qui risque d'être assez problématique. Puis je vais ajouter ce matin cette nouvelle qui est assez intéressante dans la presse concernant le classement des ministères. C'est le Conseil du Trésor qui donne un bulletin sur la performance de l'administration publique dans les différents ministères. Alors, les pires, l'éducation et l'enseignement supérieur, en queue de peloton, notamment parce qu'ils n'ont pas créé, par exemple, les classes de maternelle 4 ans qu'ils avaient promis, ils n'ont pas atteint la diplomation recherchée. Au ministère de l'enseignement supérieur, même phénomène pour ce qui est de l'étude, des études collégiales, universitaires. Bref, le ministère de la Santé aussi compte parmi ceux qui pourraient faire mieux avec des cibles qui sont pas atteintes. On peut penser à des chirurgies, on peut penser à l'inscription pour trouver un médecin de famille, même si les derniers chiffres montrent que ça s'améliore. Mais je veux juste attirer votre attention sur la Société d'assurance automobile du Québec. Parce que dans la performance, la liste qui est élaborée par le Conseil du Trésor, on se rend compte que déjà, pour l'année 2021-22, avant que on assiste au dérapage informatique, la SAC montrait des signes inquiétants. Elle a obtenu une note de 69%. Elle avait perdu 16 points depuis l'année précédente. Donc, ce qu'on découvre, son plan stratégique avait reçu une note de 94%. Mais pour ce qui est de, je dirais, les cibles atteintes ou non atteintes, là, ça s'est gâté. Donc, la satisfaction de la clientèle était en décroissance. Et tout ça avant là, de foutre le bordel, là. Donc, c'est une société d'État qui en arrachait, qui a mal évalué l'implantation d'un nouveau système. Et ça, là, la crise date depuis longtemps. Puis on a jeté un petit coup d'œil là-dessus la semaine passée, sur les postes vacants non comblés, sur le manque de personnel. Prenait des gens pour les envoyer en formation, puis il y avait moins de gens pour servir les citoyens. La Société d'assurance automobile du Québec a besoin de se faire appeler. Alors, je sais que le ministre Éric Kerr dit que c'est pas important, puis que la responsabilité ministérielle, c'est secondaire, puis que lui a rien à voir là-dedans. Mais je tiens juste à vous rappeler qu'il nous a aussi dit que le prochain chantier visé, c'est celui de la santé. C'est-à-dire le dossier de santé des patients et tout ce qui concerne les ressources humaines. On fera le point ce matin aussi avec le Dr Weiss sur la COVID 3 ans plus tard. Qu'est-ce que ça a changé? On a parlé encore de la COVID longue qui préoccupe beaucoup de gens et aussi de l'impact sur le réseau de la santé. Puis, de façon plus globale, qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce que ce genre d'événement peut se reproduire à des échelles différentes, bien sûr. Là, mais comment un gouvernement, comment une province, comment un pays doivent évaluer des stratégies de santé publique pour pas se ramasser, disons, complètement déstabilisé par ça? Ensuite, ce matin, le ministère des Transports, un de mes préférés. Alors, c'est une citoyenne qui s'appelle Brittany Ménard. Elle se promène sur l'autoroute 15 à la hauteur de la bretelle de la rue Martigny. C'est dans la presse de ce matin. Le 4 mars l'an dernier. Et là, bang, le nid de poule. Ce qui fait que la crevaison est importante. Elle a des dommages pour à peu près 500 $ pour réparer son pneu. Alors, évidemment, il y a une contestation. On lui dit, madame, fait partie des aléas de la route. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas garantir une chaussée parfaite et on n'est pas responsable, etc. Et elle s'est défendue seule. Et puis, elle a demandé au ministère de lui fournir la liste des plaintes reçues pour le même endroit. Eh bien, il y avait eu 5 signalements d'automobilistes qui avaient dit, écoutez, il y a un nid de poule qui est extrêmement dangereux. Ou des gens qui avaient eu le même problème, c'est-à-dire une crevaison. Et le MTQ n'a rien fait. Alors, la cause se ramasse devant la Cour des petites créances et la juge a déterminé que le ministère avait pas fait sa job, qu'on avait informé le MTQ, puis que le MTQ n'avait pas de raison à fournir pour expliquer le retard dans les travaux. Puis ça a l'air que l'avocat s'est même pas présenté pour des raisons qui demeurent obscures. Et là, non seulement elle a un jugement favorable, mais en plus, on apprend que le MTQ n'a pas l'intention de payer et veut l'étirer et la traîner devant les tribunaux. Aussi, ce matin, le Journal de Montréal, on revient, c'est pas une grande surprise, là, mais l'hiver québécois qui affecte les structures comme le pont Jacques-Cartier à Montréal, même le pont Champlain, avec le sel qui est utilisé. Et donc, il y aurait des façons autres de travailler, mais ça coûterait évidemment beaucoup plus cher. Je parlais des médecins tantôt, là. Radio-Canada qui nous parle de médecins du public et du privé qui veulent avoir des centres de chirurgie privés, qui ont investi, mais qui n'obtiennent pas les permis. Je comprends dans certains cas, puis dans d'autres, difficilement compréhensibles. C'est-à-dire que je pense qu'un jour, puis le ministre Christian Dubé va être avec nous, là, mais il va falloir une conversation. Et je répète la phrase que j'entends des auditeurs et des auditrices. Me faire opérer dans un hôpital ou dans une clinique privée, quand je ne paye pas, je m'en fous. Et ce n'est pas vrai qu'un centre privé va vider les hôpitaux du personnel infirmier. Il y a des infirmières qui ne veulent pas, puis des infirmiers, travailler dans un hôpital pour toutes sortes de raisons. Alors, est-ce qu'on est mieux de les avoir dans des centres de chirurgie qui peuvent donner le service? Peut-être que la question, elle se pose. Puis j'aimerais vous donner, juste pour conclure ce matin, un cas. C'est un cas, là, puis j'ai reçu en fin de semaine, mais ça veut dire pas mal de choses. C'est un pharmacien et chercheur qui travaille dans un hôpital et qui s'occupe de personnes âgées. Ça se passe jeudi dernier. Le patient qui, normalement, vit en résidence est transféré pour des problèmes de santé aigus. On le stabilise. Il peut donc rentrer chez lui. La résidence nous dit « Pourriez-vous lui faire passer un test COVID? » La veille de son départ, on fait le test, mais on reçoit le résultat trop tard. La résidence nous informe qu'elle ne pourra accepter le transfert après 14 heures. On obtient le résultat du test à 12h30. On le prépare pour le transfert, mais le mécanisme d'accès à l'hébergement bloque le transfert parce que le résultat doit arriver avant midi. C'est arrivé à 12h30. Le transfert est annulé, même si la résidence est prête à recevoir le patient en question. La conclusion, c'est que le patient doit attendre à lundi pour le transfert. C'est un patient qui occupe un lit dans un hôpital 4 jours pour rien. 4 jours parce qu'il y a un mécanisme dans le mammouth qui fait que c'est une personne malade à l'urgence, couchée sur une civière, qu'on n'a pas pu monter sur l'étage, alors que cette personne-là aurait dû être transférée. Des petites affaires. Jamais rien de majeur. Un cas isolé, peut-être, peut-être. Mais c'est pas vrai que le système public n'a pas ses lourdeurs, n'a pas des protocoles qui font en sorte que le jugement est rendu secondaire, malheureusement, dans bien des cas.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On fait le point ce matin un peu sur certains enjeux qui concernent la santé. Il y a eu cette entente entre le fédéral et les provinces. Et puis finalement, vendredi, le ministre Yves Duclos a fait un rappel à l'ordre en disant aux provinces, les Canadiens paient pour des services pour lesquels ils ne devraient pas payer. Et en conséquence, il veut retrancher de l'argent qui normalement serait alloué aux provinces. Et c'est le Québec qui va chercher pas loin de 42 millions en coupure. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, c'est pas... L'entente est encore toute fraîche, puis déjà, il veut récupérer 42 millions. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'au Québec, il y a des gens qui doivent payer pour des services et pour lesquels, normalement, ils ne devraient pas payer?
Ben, écoutez, dans certains cas, les Québécois, puis je dirais avec raison, ont un choix, des fois, pour aller plus rapidement, de décider de payer pour un test. Pour un test de laboratoire, pour un test sanguin, peu importe. Et c'est là que je suis totalement en désaccord avec ce que M. Duclos a dit. D'abord, premièrement, les calculs qu'ils ont fait pour arriver à 42 millions, les personnes qui nous les ont expliqués, c'est des estimés qu'ils font. Mais le principe est encore plus important que les chiffres. Pourquoi des Québécois qui, en ce moment, n'ont pas un système de santé à la hauteur de leurs attentes, qui veulent aller plus rapidement pour les raisons que je viens d'expliquer, pourquoi que c'est le gouvernement qui devrait être pénalisé pour ça? C'est en envers. On leur a demandé 6 milliards de plus par année. Ils nous en donnent un, puis en plus, ils viennent recouper de l'argent. Il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Non, mais
pas, là.
Je veux juste comprendre des exemples, puis vous me direz sur des services. Ce que je comprends, c'est, par exemple, une échographie réalisé par un médecin, ça, c'est pas couvert, puis un radiologiste, ça l'est.
Ouais, ben, c'est ça. Alors.
C'est quoi la différence?
Pour moi, il n'y en a pas.
Bon, mais pourquoi c'est moi qui paierais dans ce cas-là?
Ben, c'est là qu'il faut essayer de comprendre, parce que j'en ai parlé avec le ministère là, quand j'ai vu cette nouvelle-là la semaine passée, puis je leur ai posé la même question, puis ils m'ont dit, en théorie, tous ces services-là, ils sont gratuits. Ils devraient être gratuits.
Mais ils ne sont pas.
Mais il y en a qui ne le sont pas. Alors, on va commencer, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, mais l'essentiel n'est pas là. Je vous dirais, là, c'est 99% de tous ces services-là qui sont gratuits. Dans quel cas une échographie ne l'est pas, là? Moi, je ne suis pas capable de vous dire ça ce matin. Mais le principe, il n'est pas là. C'est que si une personne décide, par exemple, que l'échographie n'est pas éligible avant 4 mois, je dis n'importe quoi, là. Mais pourquoi la personne qui juge bon d'avoir une échographie puis de payer pour, pourquoi le gouvernement devrait être pénalisé si elle a ce choix-là?
Ouais, mais moi, je le prendrais à l'envers. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est que si je vais dans une clinique, je paye. Si c'est à l'hôpital, je paye pas. C'est le principe général.
Ben, pas nécessairement, parce que quand
vous souvent, pour de l'imagerie, pour...
Pour de l'imagerie, dans certains cas, effectivement, mais de façon générale, le Québécois, là, quand il va dans une clinique, dans une GMF, c'est une clinique qu'on appelle privée, puis il paye pas pour les services de façon générale.
Non, mais...
C'est là que je trouve, M. Arcand, c'est là que je trouve que le fédéral, là, qui nous a demandé d'avoir des chiffres, puis il a dit, inquiétez-vous pas, c'est sans condition, on est en train de travailler avec eux, là, sur des règles qui ont été établies il y a 20 ans. C'est ça, en fait, là. La loi fédérale qui dit que vous devez pas être en privé, ça a été établi il y a une vingtaine d'années.
Non, je comprends, mais il y a quand même, là, puis sur la liste de ce qui est non couvert, qui est facturable, là, tu dis, pourquoi, là, si je vais dans une clinique, je paye pour de l'imagerie, si c'est à l'hôpital, je paye pas. Je comprends, là, vous allez me dire, c'est pas l'essentiel, mais c'est quand même bizarre pareil.
Non, mais c'est bizarre, et c'est pour ça que si nous, en ce moment, parce que vous savez qu'on a beaucoup de choses à régler en santé, là, on s'entend.
On est d'accord.
On est d'accord. Moi, je me dis, puis c'est ça que j'ai demandé aux fonctionnaires la semaine passée, expliquez-moi quelles sont ces règles-là qui fait qu'aujourd'hui, sans nous avoir expliqué le détail de leur calcul, là, eux autres ont, il y a des fonctionnaires à Ottawa, là, qui ont pris le temps de faire ça, puis ils ont dit, le Québec nous doit à peu près 42 millions. Premièrement, expliquez-moi-le. Et si on a à corriger des choses, on va le faire, mais le principe, M. Arcand, puis je veux que les Québécois soient clairs, tous nos services qui sont disponibles au public sont gratuits, qu'on passe par la RAMQ. Si le gouvernement, le gouvernement fédéral, au lieu de nous aider en ce moment, décide d'aller jouer dans les virgules, moi, je pense que c'est un principe qui n'est pas acceptable, puis je dirais, je m'excuse, là, c'est rare que je vais faire ça, mais un député québécois du fédéral qui fait ça en plus, je comprends pas. Il était sur un mandat qui lui était donné. C'est vraiment révoltant pour le principe.
Ben oui, OK, mais je veux pas m'éterniser là-dessus, mais en même temps, les gens se disent, là, l'hôpital, ça va me prendre X nombre de semaines. Si je vais dans une clinique, pourquoi je paierais? C'est toujours ça, là. Je parle pas de gens 100% privés, là. Je parle de gens qui se disent, mon médecin m'a demandé un examen. Puis là, il me dit, ben, si c'est l'hôpital, c'est tant de semaines. Si tu passes là, si c'est le médecin de famille, il est pas payé. Ça, c'est du gossage.
C'est du. Oui, je vais vous laisser le dire. Je vais vous laisser le dire. Ça sonne mieux dans votre bouche que dans la mienne. Mais le point, c'est que s'il y a des ajustements à faire pour nous, on va les faire parce que le système est complexe. Mais le principe, c'est que les Québécois doivent avoir un choix en ce moment parce que le système n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Puis ça, je veux le garder, ce principe-là.
Je veux qu'on reste dans la mouvance du privé. Radio-Canada nous parle ce matin de médecins qui ont investi pour des cliniques privées, qui se sont fait dire non pour des permis de cliniques privées. Des médecins qui veulent opérer, qui veulent désengorger, vider les listes d'attente. Est-ce qu'il y a un moratoire là, sur le privé? Voici, nous avons tant de cliniques, puis il n'y en aura jamais plus que ça.
Non. Je vais diviser le problème en deux.
OK.
Il y a eu effectivement là, dans la dernière année des permis qui ont été, je vais dire, on savait plus c'était quoi les principes qu'on devait respecter, pour être très clair. Là. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit à la médecin de l'époque, le docteur O'Patterney, qui est rendu au CUSUM, j'ai dit, Lucie, dites-moi, là, on a une vingtaine de permis qui sont en demande d'attente, une vingtaine. J'ai dit, ce que je veux être certain, c'est que ceux qui vont pouvoir nous aider à rattraper les chirurgies, on va les donner les permis. On en a réglé un il y a quelques semaines.
Dans les Laurentides.
Dans les Laurentides. Il y en a qui sont un petit peu plus, excusez l'expression, borderline, qui fait que Puis là, j'avais une clinique là dans les derniers jours qui m'ont rappelé, qui m'ont écrit. Puis ils ont dit, nous, on va être honnête, il y en a 75% qui est de la chirurgie, puis il y en a à peu près 25% qui est de l'esthétique. Moi, je suis capable de faire des compromis dans ces cas-là. Puis je le dis, là, parce que où faut tracer une ligne aussi, c'est que si c'est une clinique, prenons à l'extrême, qui serait 100% esthétique, ben c'est sûr qu'ils viennent nous chercher des infirmières. C'est sûr qu'ils vont, encore une fois, être en contrepartie avec nous, avec le public. Alors moi, ce que j'ai demandé, j'ai dit maintenant pour ceux qui restent, là, on va les regarder un par un, rapidement, comme on a fait il y a deux semaines. Puis si on est capable d'avoir cet équilibre-là où la grande majorité de l'activité de la clinique privée serait des chirurgies qui nous aident à baisser nos listes d'attente, c'est sûr qu'on va être ouvert.
Mais le cas des Laurentides est intéressant. Des médecins qui sont dans le secteur public, ce sont des participants qui disent... On n'est pas capable de nous fournir les heures puis l'espace pour opérer. On ouvre une clinique. Des infirmières qui iront pas dans le réseau de toute façon vont venir travailler avec nous. C'est un avantage. Mon dicton, c'est toujours le même. Je vais me faire opérer à l'hôpital, clinique, privé, m'en sac, là. Si le gouvernement paye, là, je me fous de l'endroit où ça se passe.
Puis moi, je suis 100% d'accord avec ça. L'enjeu dans ces... Puis je le dis parce que vous savez qu'on va être en... On est en négociation collective. Je suis tellement d'accord avec vous que pourquoi une clinique privée est capable d'aller attirer des infirmières? Pourquoi? Parce que les conditions qu'ils vont donner à ces femmes-là ou à ces hommes-là sont meilleures que dans le public. C'est quoi notre défi? C'est de donner des bonnes conditions dans le public pour qu'il y ait un meilleur équilibre, pour que ces gens-là aient pas le goût de partir d'une clinique privée. Mais mon problème, c'est la transition. Qu'est-ce que je fais pendant qu'on n'a pas été capable d'obtenir de nouvelles conditions de convention collective? Mais il faut que je restreigne ce droit-là, parce qu'en ce moment, c'est trop facile de dire, ben écoutez, moi, je n'aurai pas de TSO, je vais avoir mes fins de semaine, je vais avoir mes vacances quand je veux. C'est ça mon problème. Alors, c'est pour ça, entre autres, que cette semaine, je suis content de déposer le projet de loi sur la question des agences privées, parce qu'on va être capable de mieux encadrer ça dans cette période de transition-là.
Est-ce que les agences privées, parce qu'il y a une bataille devant les tribunaux aussi, là,
aussi, oui.
Mais essentiellement, vous voulez les faire disparaître, vous voulez plus faire... Est-ce que c'est réaliste de penser que les agences privées auront pas un rôle pareil à jouer tout le temps?
Sur une période de transition, c'est ça que je vous explique. Regardez, là, j'ai dit clairement, puis je rentre en commission parlementaire sur ce sujet-là demain, là, au Salon Bleu. Ce que j'ai dit, c'est que la transition pour mieux encadrer puis finalement diminuer le plus rapidement possible l'utilisation des agences, je me suis donné 2 ans. Je me suis donné jusqu'en 2025-2026 pour ça. Pourquoi? Parce que des endroits, comme sur la Côte-Nord, en Abitibi, ça va être très difficile. C'est plus difficile d'aller chercher, justement, des infirmières qu'on a besoin. Mais l'encadrement que je vais faire... je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple des tarifs. Je vais l'expliquer demain en commission, là. Il y a des agences qui ont chargé jusqu'à 400-450 $ de l'heure parce qu'ils profitaient d'une situation difficile puis ils disaient à une infirmière, « Mais viens travailler pour moi, je vais te payer 80, 90, 100 $ de l'heure, mais moi, je suis capable de la recharger à 300-400 $ de l'heure. » Trouvez-vous que ça a du bon sens? Non, ça, c'est profiter de la difficulté qu'on vit en santé. Alors, mais est-ce que je vais être capable de faire cette transition-là, de limiter les montants, de trouver une façon... encore une fois, de dire aux infirmières, ben écoutez, c'est ma job à moi, au gouvernement, de vous donner des bonnes conditions, que vous n'avez plus le goût de partir. Mais est-ce que ça va me prendre 2 ans à faire la transition avec les agences? C'est à peu près le temps que je me suis donné.
Vous avez dit, on a déjà atteint la cible pour ce qui est des inscriptions des
bon,
patients.
Une bonne nouvelle.
OK, moi, ben, t'es un peu l'oiseau de malheur.
Non,
mais,
non, mais allez-y.
Ils sont juste inscrits ou s'ils peuvent vraiment avoir le médecin? C'est facile d'inscrire du monde, puis après ça, pas capable d'avoir de rendez-vous.
Dans l'entente qu'on a fait avec l'OMNI, que je remercie, là, parce que c'est ça que ça donne la collaboration. C'est quand on travaille ensemble puis qu'on trouve une façon de s'entendre. On a dit non seulement vous devez l'inscrire, mais il doit avoir un rendez-vous dans la première année. Fait que ces gens-là, là, quand ils reçoivent la lettre, il y en a plus de 500 000 qui ont reçu une lettre, dit maintenant vous êtes identifiés à une clinique dont on parlait tantôt, une GMF entre autres, et vous avez accès à un premier rendez-vous. Fait que au moins ces 500 000 personnes-là, puis est-ce qu'ils l'ont eu tout de suite dans la semaine ou ils l'auront dans 3 mois, ça c'est un autre.
Mais il y a l'obligation d'avoir un rendez-vous.
Il y a l'obligation d'avoir un rendez-vous.
Avez-vous la même collaboration avec les syndicats que vous avez avec les médecins omnipraticiens?
Non. Non, on le voit très bien. Moi, quand je vous parle de changement de culture qu'on a besoin de faire dans le réseau de la santé, regardez dans quel état étaient les discussions avec les omnis il y a un an ou deux, ou même avec les spécialistes. C'était difficile, c'était confrontationnel. On a dit, c'est quoi notre objectif? C'est que nos patients soient mieux servis. Hein? Je parle souvent de l'efficacité de l'État, l'accessibilité. On s'est assis avec le docteur Amiot puis son équipe il y a exactement un an. Puis on a dit, on va arrêter de chicaner. On a fait le projet de loi 11, qui a défini les paramètres de dire, c'est pas juste un médecin, mais ça devrait être un professionnel de la santé. On s'est chicané un peu là-dessus. Moi, j'ai modifié mon projet de loi parce que je trouvais que le point qui m'était amené par les omnis, par la Corporation des médecins, par le docteur Gaudreau, ils m'ont dit, Christian, vous faites fausse route si vous obligez les médecins, prenez ça plus large. On a changé le projet de loi. Puis une fois que la loi était claire, je me suis assis avec le docteur Amiot, puis on a dit, c'est quoi le chiffre qu'on devrait viser? Du 1 million de Québécois qui n'ont pas un médecin de famille, ils ont dit, on va faire un effort pour 500 000. Ben, on l'a réussi. Il n'y a pas eu de confrontation. Moi, ce que je dis...
OK, mais là, je ramène au syndicat, là.
Oui. Ben, j'essaie de vous donner ma réponse de façon indirecte.
Je me la donner de façon directe avec la FIC, là, puis avec la CSN, puis avec la FTQ, là.
Ils sont pas tous au même niveau.
Non.
Je vous dirais ça. Il y a des syndicats qui sont plus collaborateurs. Je comprends qu'il y a un discours qu'ils font pour leur membres, parce que c'est leur modèle d'affaires de dire qu'on est là.
C'est plus dur avec la FIC qu'avec les autres.
C'est plus difficile avec la FIC.
OK.
C'est plus difficile. Et je pense qu'avec des exemples. Tu sais, j'ai dit, la gestion du changement, je vous dis ça souvent. La première chose, quand la vision est claire, c'est d'avoir des petits succès. Puis quand on fait des succès, ça entraîne d'autres succès, ça entraîne les gens à embarquer. Je pense que le succès qu'on vient d'avoir avec les omnis, ça, c'est un très bon signe pour d'autres fédérations. Parce que les omnis, c'est une fédération syndicale.
Absolument.
Alors, moi je dis, il y a peut-être d'autres syndicats qui vont dire, attends une minute, il y a deux façons de travailler. On est en confrontation, on envoie toutes sortes de messages négatifs, ou on décide qu'on collabore.
Je suis inquiet sur un point. La semaine dernière, Éric Kerr était notre invité. Je lui ai posé la question, après l'échec de la société d'assurance automobile, quel est le prochain chantier majeur en informatique, en virage numérique? Il m'a dit la santé. Là, avec ce qui vient de se passer, là, je suis inquiet. Parce que la SAC, c'est une erreur, puis Éric Kerr dit que c'est pas de sa faute, puis là, quand j'ai dit, est-ce que je vais appeler Christian Dubé ou Éric Kerr quand ça va planter? Pis là, on est où dans ça? Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des appels d'offres et que ça intéresse personne.
Bon, on va diviser ça encore une fois, là, parce que c'est... Mais c'est, non, ça vaut la peine. Mais premièrement, c'est pas à moi à faire l'analyse de ce qui s'est passé à la SAC. Bien que, ce que je vous dis, là, je fais pas une analyse publique, mais toute expérience, on doit en tenir compte. Puis c'est sûr que ce que je vois, là, parce que je le vois moi aussi, je suis allé m'inscrire en fin de semaine, même si j'étais pas dû pour mon permis de conduire, je suis allé voir là, c'était quoi le SAG pour bien le comprendre, parce que on peut le faire à l'avance. Hein? Je dis ça aux Québécois ce matin, là, allez-y donc à l'avance pour être sûr que vous avez déjà une des deux étapes de fait. Je dis ça comme ça. Là. Pour la santé, je pense qu'on a montré, M. Arcand, que lorsqu'on travaille avec les bonnes personnes, de la bonne façon, avec les bonnes méthodes, on peut avoir des succès en informatique. Clic Santé en est un exemple. Hein? Les Québécois l'ont vu, on n'avait pas ça. On a décidé pendant la vaccination qu'on partait à zéro pour les rendez-vous. Regardez, ça a bien été. Bon, je vous dis juste que dans ma petite expérience passée des 30 quelques dernières années, j'en ai fait des projets d'informatique. Non. Et je veux juste vous dire.
Oui, mais moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que là, on parle pas d'une prise de rendez-vous pour une vaccination. Là, on parle du dossier de santé numérique. On parle de gérer les ressources humaines. C'est là mon niveau d'inquiétude.
Ouais. Mais regardez là.
Avez-vous un plan B? Êtes-vous en phase quand on va rentrer ça? Puis
je vous donne un exemple. Quand je vous disais les meilleures pratiques, soyons clairs là, pour ceux qui nous écoutent ce matin. Quand on fait des gros projets de transformation comme ça, habituellement, puis là, pour ça, je peux pas parler de la SAC, je ne sais pas s'ils l'ont regardé. Honnêtement, je ne le sais pas. Mais moi, ce que je vais faire, puis le plan, il est clair. Là, on est en appel d'offres. On a refait l'appel d'offres parce qu'il y avait des gens qui nous disaient, il est trop compliqué votre appel d'offres, fait qu'on l'a refait. Puis là, mais c'est correct. C'est réglé. Puis ça arrive souvent qu'on est obligé de retourner en deuxième appel. C'est pas nouveau. Quand on va avoir choisi notre fournisseur, je vais vous dire comment on a fait. On a 35 CCSUS à faire, au complet. On a choisi deux. Il y en a deux. Ces deux-là, on va les faire en modèle agile, qu'on appelle. C'est qu'on les fait, puis admettons, on est...
Le mammouth agile.
Non, mais c'était... C'est un expression agile. Là, au lieu de faire du bing-bang, comme il a été fait à la SAQ, où on fait tout le Québec, tout d'un coup, tous les services, nous, l'approche qu'on va prendre, c'est qu'on va dire, on va faire une ou deux régions, c'est deux régions dans notre cas, et avec quelques services. Et on fait ça pendant 12 à 18 mois, puis là, on sort tous les problèmes de ça. C'est sûr que c'est moins drôle pour ceux qui sont en Mauricie ou à Sherbrooke, mais c'est bien mieux de le faire dans un petit groupe. Et quand ça fonctionne, bien là, tu fais une réplication de ton modèle dans tout le reste. C'est comme ça qu'on va faire le dossier de santé numérique.
Puis c'est qui je vais appeler si ça marche pas, vous ou moi?
Okay, moi.
Parfait.
Parce que, mais je veux pas défendre Éric, mais je veux dire une chose. C'est que, Il y a des ministres qui doivent collaborer ensemble parce que oui, il y a la partie dossier numérique, puis il y a la partie informatique de la SAC. Mais à un moment donné, ça prend un leader. Puis le leader, c'était la SAC qui doit livrer le produit, incluant le service de
l'authentique. Visiblement, ils l'ont échappé d'aplomb, là.
Comme faux. Alors donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y aura un responsable, puis ça va être la santé. Mais moi, je vais avoir à travailler avec Éric Kerr pour être sûr que la partie... Parce que, écoutez, juste pour assurer les Québécois, là, dans un an, mettons que j'ai besoin du SAG, moi, il va y avoir 6 millions de personnes qui vont en passer à travers. Je suis un peu chanceux de passer en deuxième, je vais dire ça comme ça.
T'en fais deux choses en terminant. Je vous donne un cas, là. Tu sais, quand on appelle, ben ça, souvent l'obsession du protocole. Je ne donnerai pas trop de détails, mais grosso modo, c'est un monsieur âgé, il se ramasse à l'hôpital. On le stabilise, c'est parfait. Il doit quitter le lendemain pour retourner dans sa résidence. On demande un test COVID. On a le résultat à 12h30. Dans le protocole, ça dit que si on ne l'a pas avant midi, ben il va rester à l'hôpital une journée de plus. C'est arrivé un vendredi, il retourne à l'hôpital aujourd'hui.
Ce qui fait... Non, vous êtes pas... Là, vous me dites ça, là?
Oui. Okay. Puis ça veut dire qu'il a occupé un lit pour rien pendant 4 jours d'une personne qui est restée en civière à l'urgence. C'est un exemple.
Mais regardez, Monsieur Arcan, j'espère que c'est pas le dernier matin que vous m'invitez. Non, mais dans quelques semaines, je vais déposer un autre projet de loi parce que là, on va avoir réglé la question de la main-d'œuvre indépendante dans les prochaines semaines, je l'espère. Je vais déposer un projet de loi sur l'efficacité du réseau de santé. Des choses comme ça, pour moi, là, c'est aberrant. Sauf que l'enjeu, des fois, est-ce que c'est le médecin? Des fois, est-ce que c'est le laboratoire OptiLab? Est-ce que c'est...
Le protocole.
Le protocole. Alors, je vais vous dire, je m'attaque à quelque chose de très, très gros là, d'ici quelques semaines. C'est un projet de loi que je vais déposer à la fin du mois de mars. Puis j'espère que sur l'horizon 2025 que je me suis donné, je reviens toujours à ça. On a eu des beaux succès dans la dernière année, mais on est loin d'avoir réussi.
Non, mais...
On a eu des succès. Je vous dis juste que des exemples comme ça, je vais continuer d'en avoir, mais j'espère que je vais en avoir de moins en moins au fur et à mesure qu'on...
Dernière question, parce que le temps file.
Ouais.
Est-ce que c'est vrai que M. Fitzgibbon est le seul à avoir droit au téléphone cellulaire au Conseil des ministres? Mon ami Jonathan m'a raconté ça tantôt. Vous êtes bien placé pour me le dire.
Non, mais je sais qu'on n'a pas le droit. Je veux juste dire ça.
Okay,
y a-tu
des cas d'exception?
J'en ai pas vu, mais Monsieur Fitzgibbon, il est à ma gauche. Je le vois pas parce que moi, j'étais en face du premier ministre. Fait que je répondrai.
Vous savez
que
pas si.
Je répondrai qu'en la présence
mais
de mes avocats.
C'est interdit, c'est ça?
On a une petite boîte où on laisse nos téléphones en rentrant.
Monsieur Dubé, merci d'être venu ce matin.
Un plaisir, monsieur.
Christian Dubé, le ministre de la Santé. Donc, la COVID, pardon, ça fait déjà 3 ans que la pandémie officiellement était déclarée avec toutes les différentes phases qu'on a vécues de confinement, découverte du vaccin, clinique de vaccination. Donc, 3 ans plus tard, où en sommes-nous? Et surtout, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience qui a été, avouons-le, quand même pas facile pour bien des Québécois? Le docteur Carl Weiss est avec nous. Bonjour, docteur Weiss.
Oui, bonjour, monsieur Arcan.
D'abord, qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, de tout ça? Là? 3 ans plus tard, là, qu'est-ce qui vous frappe comme médecin spécialiste?
Ben d'abord, je pense qu'on retient qu'on a tous vécu une page d'histoire, c'est-à-dire que c'est un événement unique dans l'histoire qu'on a vécu, qu'on a traversé avec ses hauts et ses bas, et je pense qu'on a vu le meilleur et le pire de l'humanité à travers de tout ça. Ce que je retiens aussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on a vécu une pandémie où on a pu trouver un vaccin, des médicaments, identifier le virus, faire des tests et régler le tout de façon quand même assez rapide, puisqu'en dedans de 3 ans, on a progressé considérablement pour une nouvelle maladie qu'on n'avait jamais vue auparavant. Maladie aussi qu'il faut comprendre a touché l'ensemble de l'humanité. Et si j'avais dit il y a 3 ans qu'une pandémie allait stopper le monde d'une façon comme on l'a vu, les gens m'auraient pris pour un fou. Donc on a tous vécu, que je vous dirais, une certaine page d'histoire. Il faut pas oublier non plus qu'on a payé un certain prix, parce qu'il y a quand même plus de 18 000 Québécois et probablement plus qui sont décédés de la COVID, surtout au début de la pandémie. Mais je dirais que principalement, ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est dans l'ensemble, c'est la résilience, je vous dirais, de l'ensemble de la population québécoise, qui a été discipliné, organisé, qui est allé se faire vacciner, qui a écouté les consignes. On a eu bien sûr des discussions qui parfois étaient saines à l'intérieur d'une société, mais de façon générale, je dirais que le grand vainqueur de cette pandémie-là, c'est l'ensemble de la population québécoise.
La deuxième question, est-ce que depuis 3 ans, on en sait un peu plus sur les effets, peut-être à plus long terme, de la COVID? Et je parle pas juste de la COVID longue. Je vois ce matin dans Le Devoir un article qui dit que on n'est pas capable encore de vraiment mesurer l'effet du virus sur les maladies cardiaques. Est-ce qu'il y a des choses que depuis 3 ans, on a pu apprendre?
Oui, alors on a appris énormément de choses. Je vous dirais même que le problème de la COVID, c'est que des fois, entre guillemets, on en apprend trop. C'est-à-dire que tout le monde veut tout publier. Et donc, il y a beaucoup d'informations médicales qui est publiée sur la COVID et il faut la filtrer parce que beaucoup de cette information médicale dit le tout et son contraire la même journée. Donc, on a appris énormément. La COVID est une maladie, on le sait aujourd'hui, qui est inflammatoire, c'est-à-dire qui provoque une réaction importante du corps humain. C'est une maladie aussi qui a tendance à provoquer la formation de petits caillots. On sait comment les gérer dans la COVID sévère, maintenant à l'hôpital, etc. On sait moins, si vous voulez, les gérer quand c'est des tout petits caillots qu'on ne voit pas forcément et qui ne donnent pas de symptômes. C'est-à-dire qu'il y a probablement des gens qui font une COVID pas très malade, légère, mais qui ont peut-être ces petits caillots qui se forment, par exemple, au niveau du cœur ou au niveau du cerveau ou au niveau du poumon, et on ne sait pas trop. Est-ce que c'est responsable de la COVID longue? C'est une possibilité. Je vous dirais que actuellement, la grosse bataille, si vous voulez, c'est de mieux comprendre la COVID longue. Qu'est-ce qui provoque la COVID longue? Pourquoi certains individus vont développer la maladie et pas d'autres? Et qu'est-ce qui va arriver à plus long terme? C'est quand même intéressant qu'on parle déjà de COVID longue pour une maladie qui, comme vous le dites, est connue seulement depuis à peu près 3 ans.
Troisième question, et elle est souvent soulevée par les auditeurs. Est-ce que vous avez l'impression que le vaccin, en tout cas pour une partie de la population, sera nécessaire à renouveler, par exemple, l'automne prochain? Est-ce que on va encore avoir le port du masque dans des résidences pour personnes âgées? Donc, les suites un peu de la COVID.
Alors, en ce qui concerne la vaccination, ça fait déjà pas mal de temps que, en tout cas, c'est ce que je pensais. Je pense que pour l'immense majorité de la population qui a eu au moins 2 doses et la maladie ou 3 doses et la maladie, je pense que la vaccination, ce sera plus quelque chose qu'on va faire de façon régulière. Est-ce qu'on aura besoin d'un rappel dans 5 ans, dans 10 ans? Possiblement, mais certainement pas un rappel annuel pour la vaste majorité de la population. Pourquoi? Parce qu'on sait maintenant qu'on n'est pas immun, je vous dirais, l'immunité collective, vous vous rappelez du terme qu'on utilisait, c'est-à-dire que si on attrape la COVID, on peut rattraper la COVID. Si on est vacciné au bout de 6 mois, on peut quand même attraper la COVID. Pas tout le monde, mais c'est une maladie qui, à ce moment-là, est très légère. La grande victoire de la vaccination, c'est contre la maladie sévère. C'est-à-dire que les gens vaccinés, ils ont quasiment plus de risques d'aller à l'hôpital et d'être hospitalisés pour une maladie sévère. Donc, je pense que la vaccination, maintenant, ça va être à géométrie variable. Ça va être plutôt pour des populations à risque, un peu comme la grippe sur une base annuelle, alors que pour la population générale, non. Le masque, je vous dirais, probablement qu'on va essayer de garder ça, même pas juste pour la COVID, mais aussi pour les autres virus respiratoires, dans les établissements de santé. Je pense qu'à l'intérieur des établissements de santé, oui, on va continuer de garder le masque. Par contre, il va falloir s'ajuster. Par exemple, vous savez qu'actuellement, on dépiste encore les gens pour la COVID avant de faire des chirurgies. Est-ce qu'on va avoir encore besoin de faire ça? À mon sens, non. Je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir ajuster. Est-ce que les travailleurs de la santé, par exemple, qui ont été vaccinés 3 fois, 4 fois, qui ont fait la COVID, qui ont quasiment pas de symptômes, est-ce que ces gens-là pourraient revenir travailler plus rapidement avec des masques, etc.? À mon sens, oui. Donc, il y a des ajustements qu'on va devoir faire pour revenir à une vie que j'appellerais maintenant quasiment normale, comparé à ce qu'on avait auparavant.
Merci beaucoup, Dr. Weiss, et merci de nous avoir accompagnés pendant cette pandémie. Toujours apprécié.
Ça me fait plaisir.
Merci. Au revoir. Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a reçu tout un appui de ses militants en fin de semaine. Un appui à 98,5. Jour amusant ici de faire cette mention. Et il a dit que, avec un vote de confiance qu'il a reçu humblement, c'était aussi l'occasion de mettre en place des chantiers sur l'indépendance du Québec, parler de la souveraineté, et tout ça en vue des élections de 2026. Il est avec nous ce matin. M. Saint-Pierre Plamondon, bonjour.
Bonjour.
Ben, la première question, vous dites c'est le temps de d'amorcer les chantiers sur la souveraineté. Est-ce que je comprends, vous dites, le gouvernement de la CAQ va tellement perdre avec le fédéral que les gens vont se tourner vers la souveraineté, il faut être prêt?
On peut dire ça, oui, dans la mesure où je pense que tout le monde a pris acte que l'idée que la CAQ, même avec 90 députés, obtiendrait gain de cause sur des choses fondamentales, même des choses que le premier ministre, François Legault, a qualifiées de essentielles pour la survie de la nation. Il n'y a plus personne qui pense que cette doctrine fédéraliste donne des résultats. Et on voit également une progression de l'indépendance dans l'opinion publique, mais c'est une progression que nous, on veut soutenir, qu'on veut élargir, parce qu'à notre avis, très sincèrement, si on demeure dans le Canada, le déclin linguistique, culturel et également sur le plan économique et environnemental va se poursuivre. Donc, ça devient donc non pas un projet théorique, mais une nécessité immédiate de décider par nous-mêmes et d'exister au niveau international également. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille dans un nouvel environnement qui est stable,
okay.
Qui est très stable.
Vous n'avez pas peur de frapper un plafond? C'est-à-dire, là, on comprend, mais que je pense aux préoccupations des gens, les taux d'intérêt, le panier d'épicerie, qui, la souveraineté, là, vous allez me dire, oui, mais ça a des effets, je comprends, mais c'est pas non plus le sujet numéro un de préoccupation des gens.
En effet, c'est pour ça que vous nous avez entendus sur tous les sujets d'actualité depuis le début de la session. Même, on nous reprochait d'être trop présents sur tous les sujets. Donc, on est capable d'être utile. Puis ça, je m'étais engagé à être non seulement utile, mais constructif avec le gouvernement, une opposition qui est constructive. Ça, on le fait. Mais pour une des rares fois de l'histoire du Parti québécois, on n'est pas en train de se déchirer. On avait décidé, lors de la refondation en 2019, d'avoir une culture collaborative qui est loin des déchirements. On réussit ça et ça nous donne un espace de stabilité où donc on a du temps pour parler d'avenir, avoir une vision, et je pense que c'est ce qui nous distingue le plus de la CAQ. Nous, on veut être un parti qui a une vision de société, un projet de société. La CAQ est davantage dans la gouvernance au jour le jour, entre autres en fonction des sondages internes. Donc c'est très différent et je pense que les gens vont accueillir favorablement ce qu'on va présenter au cours des prochaines années en termes de vision à moyen et long terme.
OK. Pourriez-vous nous éclairer un peu sur la discussion de la fin de semaine avec les propos du chef du Bloc, M. Yves-François Blanchet, concernant, là, puis je vais résumer sommairement, là, le Canada, son idéologie woke et les effets sur le Québec, là. On parle de quoi exactement, surtout quand on arrive avec des différents concepts comme celui de l'intersectionnalité? Expliquez-nous ça.
Ben,
on déjeune ensemble ce matin, puis on cherche à comprendre les mots.
Oui, oui, je vais essayer de le vulgariser sans rentrer dans les détails de chaque débat universitaire. C'est vrai de dire que le Canada impose son idéologie, et parfois ce sont des dérives idéologiques. Imposer son idéologie comment? En mettant toutes sortes de critères dans les universités, dans la production de contenu culturel, également dans une culpabilisation du Québec, à chaque fois que notre réponse n'est pas celle que le gouvernement Trudeau souhaiterait. Et donc, sans rentrer dans des débats qui ont une légitimité, qui existent partout au Québec, il est vrai qu'on doit réitérer que on est en démocratie. Et donc, il y a des débats qui doivent être menés sans que le gouvernement du Canada cherche à imposer, à écraser tout point de vue différent à ce qui, vraisemblablement, dans les universités, là, devient une idéologie écrasante. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs problèmes là, en Amérique du Nord récemment quant à l'espace de débat dans les universités. Et c'est un enjeu qui peut devenir sociétal. Donc, je pense qu'il faut rappeler qu'on est en démocratie et que peu importe les courants idéologiques plus radicaux, ultimement, la population, les politiciens ont le droit d'énoncer un point de vue différent.
OK, mais c'est quoi ça?
Tant qu'il se justifie, là.
Ouais, la perspective intersectionnelle.
Spécifiquement sur ce point-là, y a deux courants de féminisme. L'intersectionnalité vient créer des catégories des caractéristiques individuelles qui devraient être analysées ensemble de manière à considérer que certaines situations sont plus difficiles que d'autres. L'approche universelle pose davantage l'idée qu'on devrait aider toutes les femmes et avoir des approches qui donc s'adressent à tout le monde en même temps pour s'approcher le plus de l'égalité homme-femme. C'est un débat qui existe au sein du Parti québécois, pour être honnête.
C'est parce que je donne cet exemple-là parce que Québec solidaire a déposé une motion qui disait, je cite, l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle pour défendre les droits de toutes les femmes du Québec. Vous avez soutenu cette motion. Jean-François Lisée a dit, vous êtes tombé dans le panneau parce que ça a l'air progressiste. Vous êtes pas, vous n'avez pas mesuré l'impact juridique de ça.
Ouais, ben dans les faits, c'est que c'était le jour de la femme et nous, on voulait que tous les partis politiques soulignent, comme à chaque année, cette occasion importante là, de parler des droits des femmes. Et c'est dommage que Québec solidaire ait voulu imposer son agenda idéologique, comme c'est souvent le cas, à travers une motion qui, normalement, est rédigée de manière à ce que tout le monde se mette d'accord. Mais on savait également que l'idée, la stratégie ou ce que M. Lisée appelle le piège de Québec solidaire, c'était que si on votait contre, là, évidemment, c'était une sortie pour dire qu'on était contre le féminisme et contre la Journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est le genre de tactique à l'Assemblée nationale là, qui, malheureusement,
okay.
Mais ne permet pas d'avoir un débat serein sur une question qui existe partout en Occident, là, disons-le.
OK, mais c'est ça, mais parce que les woke, il n'y en a pas juste à Ottawa. Vous me dites, même au sein du parti, on a des débats là-dessus, là.
Ben, c'est-à-dire que c'est woke ou pas, là, il y a des théories. Ça se discute au Parti québécois parce qu'on est un parti démocratique. On se pose ces questions-là, mais on se préoccupe davantage à savoir qu'est-ce qu'on propose aux gens concrètement pour que le féminisme, l'égalité homme-femme, progresse. Puis, ultimement, ces débats universitaires-là, on en parle, mais le rôle d'un parti politique, c'est de faire des propositions tangibles pour la population. Puis nous, on voit plusieurs endroits où l'égalité homme-femme est loin d'être atteinte. Donc, on en conclut comme parti politique qu'on va se concentrer sur ce qu'on propose aux gens qui serait le plus efficace, le plus utile à notre avis.
Un vote de confiance à 98,5, comprendrez qu'ici, on apprécie.
Vous savez qu'en plus, sans vous nommer, je vous ai cité quand j'ai dit que Québec solidaire était indépendantiste une journée sur deux, donc
mais
que les astres,
juste pour vous rappeler, ouais, juste pour vous rappeler votre taux d'approbation.
98,5.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ah ben merci.
Au revoir, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. On va aller tout de suite en Ukraine retrouver notre collègue Fabrice de Pierrebourg qui s'est déplacé évidemment dans les derniers jours. Il est dans une ville très près de Bakhmout. Il y a des tirs de l'artillerie ukrainienne vers des positions russes. Fabrice, d'abord, bonjour et deuxièmement, qu'est-ce que tu peux nous partager ce matin?
Bonjour Paul. Ben écoute, on a passé la matinée à Chassiviar. Chassiviar, c'est une toute petite ville d'environ 20 000 habitants il y a quelques mois. C'est à la sortie ouest de Bakhmout et les premières positions russes sont à environ à peu près 1 ou 2 kilomètres. Et c'est de cette petite ville que les Ukrainiens mènent une offensive d'artillerie très intense pour tenter d'empêcher les soldats russes et les mercenaires du groupe Wagner d'encercler complètement Bakhmout. On sait que ils sont là en arc de cercle, de l'ouest quasiment jusqu'au sud-ouest, puis il reste juste un mince échappatoire pour les soldats ukrainiens d'environ 3-4 kilomètres de large, et Chassiviar est vraiment au milieu de ça. Donc pour y aller, ça a été assez compliqué, c'est une vraie expédition, on a emprunté beaucoup de détours dans la campagne, sur des chemins défoncés, détrempés, parce qu'il a plu beaucoup ces derniers jours, on a croisé beaucoup de véhicules militaires dans tous les sens, d'ambulances, et puis à un moment donné, petite anecdote, on a un contrôle, donc ils ont voulu vérifier si on avait le droit d'aller là. Et des policiers nous ont dit, avez-vous un casque? Oui. Avez-vous un gilet pare-balles? Oui. Ah, bah, la situation va être normale pour vous, alors, en riant. Et quand on arrive là-bas, évidemment, ce qui est impressionnant, c'est que c'est des bruits incessants d'explosions, d'artillerie. On ne sait plus si c'est des tirs entrants qui viennent du côté russe ou sortant du côté ukrainien. Tous les édifices, les maisons sont à moitié détruits ou désertés. Il y a des cratères d'obus, des arbres qui sont fauchés. Puis beaucoup de blindés, ça j'ai remarqué, plutôt modernes cette fois-ci, positionnés derrière des immeubles qui sont détruits ou des immeubles désertés. Et à travers tout ça, encore une fois, quelques rares habitants qui vont dans ces rues vraiment où il n'y a plus personne, ils vont chercher de l'eau, il y a un point de distribution d'eau, ils vont chercher de quoi substanter. Il y a une espèce qu'ils appellent des points d'invisibilité qui sont dans des immeubles. Là, ils ont du chauffage, ils peuvent recharger leur téléphone cellulaire. Ils peuvent se reposer. Et puis, vers midi environ, là, il y a une intensité du combat parce qu'il paraît que tous les jours, les Russes commencent vraiment à bombarder vers midi. Peut-être que le matin, ils dorment, là. Mais en tout cas, vers midi, ça devient plus intense. Et nous, on a décidé de sortir de là parce que on était tout seul. On n'avait pas de réseau cellulaire. Il n'y avait rien. Donc, c'était beaucoup plus prudent. Autre anecdote, Paul, on a rencontré les combattants tchétchènes. Et je sais que ça surprendra peut-être beaucoup de monde, mais il y a un bataillon de tchétchènes qui sont ici. Et qui combattent aux côtés des Ukrainiens, parce qu'évidemment, ces combattants tchétchènes ont en horreur Vladimir Poutine à cause des guerres qu'il a menées là-bas dans les années 90, qui ont été très meurtrières. Donc on a vu des gars assez costauds, longue barbe, surarmés, et ils nous ont même proposé, ils ont dit si vous voulez, venez avec nous, on a une petite opération à monter ce matin. On a décliné. Ce week-end aussi, ce qui est intéressant, Paul, c'est qu'on a rencontré beaucoup de soldats qui sortaient de Bakhmout. Beaucoup étaient exténués, on voyait sur leur visage, ils essayaient de reprendre un peu mieux dans des petits cafés pas loin de Bakhmout, le visage marqué, ils étaient vraiment épuisés, sales, etc. Puis il y en a plusieurs qui ont voulu raconter ce qu'ils vivaient en ce moment à l'intérieur. Il y en a un, ça, j'ai trouvé que sa formule était excellente, il m'a dit « Seuls les idiots n'ont pas peur à Bakhmout ». Lui, il a été blessé par un tir de grenade par un milicien Wagner. Deux de ses collègues ont été tués. Il est resté pendant une journée blessé derrière un immeuble parce que c'était impossible de l'évacuer. C'était trop dangereux. Il était terrifié. Il y avait des éclats de grenades dans il m'a montré, là, dans les jambes. Problème d'audition. Il a été secoué, évidemment. Et il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe à l'intérieur. Il dit, les Russes sont en train littéralement de raser. On sait qu'ils occupent la moitié de la ville, la partie est, de l'autre côté d'une rivière qui traverse cette ville-là. Ils disent, ils sont justement en train de faire comme on a vu en Tchétchénie ou en Syrie. C'est-à-dire des bombardements, ils tirent, ils démolissent tout, même s'il n'y a plus personne à l'intérieur. Puis ils disent, de notre côté, la plupart des pertes humaines sont vraiment dans l'infanterie, dis-moi. Il n'y a personne qui n'a pas été blessé dans mon bataillon. Et il y en a d'autres qui nous ont raconté, effectivement, leur cauchemar pour accéder à Bakhmout. Maintenant, c'est ces fameuses routes qu'on a prises aujourd'hui, qui sont dans des champs. Ils disent, des fois, les véhicules sont complètement embourbés là-dedans. Il faut appeler des bulldozers, vraiment des gros caterpillars pour venir les sortir de là. Puis il dit une fois, c'était tellement une panique. Il dit, nous, avec nos 4x4, on était pris dans la boue. Il y a un blindé ukrainien de leur bord qui est arrivé à toute vitesse et il a littéralement écrasé leur véhicule. Il dit, on s'est retrouvés là, c'était en pleine nuit. il n'y a plus de véhicules dans le bois, ça tirait de partout. Et ils sont restés pendant une journée, pareil, terrifiés, en attendant qu'un autre escadron vienne les récupérer. Donc, c'est unanime pour dire que ce qui se passe en ce moment, tout le monde le dit, c'est la bataille, pour l'instant, la plus sanglante de l'Ukraine ici.
Merci beaucoup, Fabrice de Pierrebourg, qui nous parle en direct de l'Ukraine. Toujours, évidemment, le conseil de prudence. Et on va essayer de garder ce contact, évidemment, encore pendant quelques jours, la durée de sa présence en Ukraine. Et Marc, je t'invite à écouter la prochaine entrevue. Ça concerne une Lavalloise qui est entrée en litige avec le ministère des Transports. Elle roule avec son véhicule sur la 15, un méga nid de poule. Et puis finalement, il y a des dommages donc importants. Elle veut obtenir un dédommagement, mais elle est obligée d'aller se battre. Elle s'appelle Brittany Ménard. Madame Ménard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, racontez-nous un peu d'abord, vous êtes sur la 15, ça se passe quand? Puis qu'est-ce que vous avez comme problème à ce moment-là?
Oui, dans le fond, j'étais à Saint-Jérôme, puis je revenais de chez des amis, c'était vendredi le 4 mars 2022.
Okay.
Puis, dans le fond, j'embarquais sur l'autoroute 15, direction sud. Puis, en embarquant, je roulais, puis en voulant me tasser sur l'autoroute 15, à la dernière seconde, c'était le soir, j'ai vu le gros nid de poule, j'ai pas eu le temps de l'éviter malheureusement. Donc, mon pneu côté droit passager, avant, j'ai roulé dans le nid de poule. Donc, ça l'a vraiment cogné. Alors là, ça s'est mis à vibrer. Donc, je me suis tassée immédiatement sur la voie d'accotement. J'étais avec mon copain. Donc, lui a débarqué pour voir si j'avais effectivement une crevaison. Donc, oui, mon pneu était crevé. Alors là, j'ai dû attendre le remorqueur pour me faire sortir de l'autoroute. Ensuite de ça, il est venu changer mon pneu, puis j'ai pu me rendre chez moi après. Donc, c'est ça qui s'est passé.
Et là, vous avez fait une première démarche auprès du ministère des Transports pour vous faire dédommager, puis ça a été non, je pense.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, moi, j'ai commencé mes démarches par la suite auprès du ministère du Transport. J'ai demandé la liste des signalements, s'il y avait eu des signalements dans les jours avant mon incident.
Attendez, donc, je veux juste savoir, pourquoi vous avez pensé à ça? Pourquoi vous avez pensé à demander s'il y avait eu des signalements avant?
Dans le fond, j'avais parlé avec des connaissances, des amis autour de moi, puis ils m'avaient dit que ça se faisait. Moi, je ne le savais pas, c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait mes démarches, j'ai demandé au MTQ la liste des signalements. Pendant ce temps-là, j'ai quand même rempli la demande en ligne de dédommagement. Puis, quand j'ai eu la liste des signalements quelques semaines plus tard, au mois d'avril 2022, c'est là que j'ai rajouté ça à mon dossier pour leur montrer qu'effectivement, ils étaient au courant qu'il y avait un trou à cet endroit-là. Alors, la réponse a quand même été la même. Selon une loi, ils pouvaient pas ils sont pas responsables des dommages causés aux pneus, aux jantes, etc. Donc, ils n'ont pas voulu me dédommager. Alors, ce que moi j'ai fait, j'ai commencé à monter mon dossier aux petites créances.
OK. Finalement, là, vous avez eu une décision en votre faveur, un peu moins de 500 $. Puis, dans le fond, la juge blâme sévèrement le ministère en disant, vous le saviez qu'il y avait un problème, il y avait eu des signalements, vous aviez le temps en masse d'intervenir pour le réparer, puis vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que le ministère est condamné. Mais là, est-ce que je comprends en lisant la presse de ce matin que l'avocat du ministère n'était pas présent?
Ouais, exactement. Dans le fond, selon ce que la juge me dit, ils ont jamais répondu à la demande. Puis ensuite de ça, ils se sont pas présentés en cours non plus. Donc c'est ça. Puis par la suite, dans le fond, moi, quand j'ai fait mes démarches pour me faire rembourser, quand j'ai envoyé la preuve de jugement, eux autres, j'ai eu comme connaissance qu'ils faisaient un pourvoi en rétractation du jugement. Ce qui veut dire que, dans le fond, c'est pas qu'ils remettent en appel la cause, c'est qu'ils doivent présenter au juge un motif valable de pourquoi se sont pas présentés en cours. Puis là, je suis en attente de savoir si c'est accepté par le greffier, je dois repasser en cours. Puis si c'est refusé, ben là, ils n'auront pas le choix de me dédommager.
Ben là, je sais pas, faites bien de vous battre et puis de défendre vos droits comme ça.
Oui, ben merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Et il y a eu quand même des cas où le MTQ a payé. Mais d'abord, de ne pas se présenter, il faut le faire. Ils sont mis d'avoir une maudite bonne raison. Et deuxièmement, ben, il y a eu des signalements. Et je sais qu'à la ville de Montréal, entre autres, si on signale la présence d'un nid de poule qui potentiellement peut causer des dommages, puis que c'est pas réparé dans un délai raisonnable, ben là, oui, la ville peut être tenue responsable. Donc, c'était Brittany Ménard.
C'est 23.